ce soir, dans le mois de novembre, tout simplement, dans la simplicité, j'aimerais partager avec vous une méditation d'un psaume. Et je vous invite tout simplement à l'écouter, on ne va pas l'afficher, et à le recevoir par le Saint-Esprit comme une eau rafraîchissante, comme la pluie qui tombe. Laissez-vous juste inonder de ça, en écoutant tout simplement ce psaume. C'est bon de temps en temps de juste entendre, de juste avoir les oreilles pour entendre dans une attitude de recueillement. Alors, sans plus tarder, je vous invite à nous recueillir. Et ensuite, je lirai ce psaume, qui est assez long, mais je le lirai en entier, si vous voulez bien, pour qu'on puisse vraiment juste le recevoir. Et ensuite, on aura quelques petites réflexions, quelques pistes que nous pourrons partager ensemble pour voir un peu ce que cette parole nous dit pour nous aujourd'hui. Seigneur, ce soir, nous nous approchons avec humilité et avec attente pour recevoir la nourriture de ta parole. C'est dans le silence de nos cœurs que tu parles, c'est dans la foi que nous voulons accueillir ce que tu as à nous dire. Merci de révéler encore par l'Esprit qui souffle partout, où il veut, comme il veut et quand il veut, et de nous révéler ton visage de Père de miséricorde. Que nos cœurs, que notre terre intérieure soient toutes disposées à recevoir cette semence qui vient de toi. Mon âme bénit le Seigneur, que tout en moi vienne bénir son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui arrache ta vie à la tombe, qui te couronne de sa tendresse, qui te couronne de sa compassion, qui rassasie de bien ton âge et renouvelle ta jeunesse comme l'aigle. Le Seigneur fait justice et il défend la cause de tous les opprimés. À Moïse, il a fait connaître ses chemins, à Israël, ses hauts faits. Il est compatissant, le Seigneur. Il est bienveillant, si long à la colère et débordant d'amour. Il n'est pas à la recherche de la faute. Il ne nous fait pas des procès sans fin. Il ne nous garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux surplombent la terre, sa fidèle tendresse abrite ceux qui le respectent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il écarte de nous nos transgressions. Comme des parents ont compassion de leurs enfants, son cœur de père est saisi aux entrailles pour ceux qui le respectent. Il se souvient, il sait de quoi il nous a créés, il tient compte du fait que nous sommes poussière. Car l'être humain, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs. Il fleurit, elle périt. Le vent souffle sur elle, et déjà elle n'est plus. Mais la tendresse du Seigneur est toujours et pour toujours sur ceux qui le respectent. Il intervient en faveur de leurs enfants et des petits-enfants. Oui, de tous ceux qui gardent son alliance et ont intégré ses conseils afin de suivre ses chemins. Le Seigneur a dressé son trône dans les cieux. Il règne souverainement sur toutes choses. Bénissez le Seigneur, vous les anges, force d'élite qui, au service de sa parole, est attentif à la voix de ses ordres. Bénissez le Seigneur, toutes les armées célestes, vous les messagers, au service de sa volonté. Bénissez le Seigneur, toutes ses créatures, dans tout l'univers où il règne. Mon âme bénit le Seigneur. Amen. Quel bouquet de louanges à Dieu, à ce Dieu puissant et en même temps si doux, si compatissant, d'une miséricorde infinie. Et d'ailleurs, le titre de ce message qui m'est venu tout à l'heure, on y pense encore, serait « Un Dieu puissamment tendre ». Un Dieu puissamment tendre. Mon âme bénit l'Éternel. C'est ainsi que ce poème, ce psaume, ou ce chant, c'est tout à la fois, commence. Et c'est un appel. C'est un appel à mon âme. C'est un appel que le psalmiste dit à son âme, « Hé, réveille-toi, nous allons louer le Seigneur. Nous allons dans la présence de Dieu, nous allons bénir le Seigneur. Que tout en moi, dira-t-il. » Et en hébreu, c'est très spécifique ce mot, parce que c'est le mot « kerev ». Et le mot « kerev », ce n'est pas juste l'âme comme nous l'entendons en français. Notre français est parfois un peu limité. L'hébreu est très imagé et très riche lorsqu'il a un mot. C'est tout mon âme, mes entrailles, mon corps, mes émotions, mes joies, mes tristesses, mon intellect, ma raison, mes profondeurs insondables et même les lieux les plus inconscients, les lieux les plus obscurs. C'est tout ça que le psalmiste dit. Mets-toi ensemble, réunissons le troupeau. Réunissons tout cela pour être dans la présence de Dieu. Il faut que tout soit dans la présence de Dieu. Et ça nous amène à cette image de Jésus qui un jour raconte cette parabole de ce berger qui rassemble son troupeau. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs, la Bible et la parole de Dieu est tellement riche qu'elle a plusieurs facettes. Ce troupeau et cette brebis qui se perd, vous vous rappelez ? 99 brebis qu'il compte, et puis il y en a une qui manque. Alors il va la chercher. Bien sûr, c'est l'âme qui se perd et que Dieu va toujours aller chercher. Mais au-delà de ça, c'est aussi toutes les parties en moi que Dieu demande qu'on rassemble pour qu'il soit sous le regard du grand berger, grand B. Et toutes ces parties, même celles qui sont un petit peu perdues, un petit peu obscures, un petit peu peut-être comme ci ou comme ça, on va tout chercher, on va rassembler notre troupeau intérieur pour bénir le Seigneur. C'est le kerev de l'hébreu. Bénir. Ce mot, on le sait bien, il a été relégué à la religion et c'est tout. Si on dit à quelqu'un, je te bénis, il va dire, t'es religieux toi. Et pourtant, c'est un mot tout à fait de la langue française qui vient du latin. Et nous, en italien, par exemple, on l'a encore gardé dans son origine, c'est « benedicere ». Ça veut dire « dire du bien ». Ça veut dire ça. Et bien sûr que dans notre époque, dans notre génération, dans nos situations, nous sommes plutôt des adeptes du « peut mieux faire » que de « dire du bien ». Et pourtant, le psalmiste, de ce psaume en particulier, il va dire « Mais bénis le Seigneur, dis-lui du bien pour dire du bien. » Et c'est très fort ce mot « dire du bien ». Il y a à peu près une semaine, j'ai invité quelques amis à la maison et j'ai invité également la maman d'une très bonne amie. Et elle était très touchée de l'invitation et à la fin, elle m'a beaucoup remerciée. Et je lui ai simplement répondu en toute vérité, en toute simplicité, « Mais c'est un grand plaisir de vous avoir, c'est une joie, c'est facile de vous avoir. » Et du tac au tac, elle me répond, « C'est parce que vous ne connaissez pas mes défauts. » Et puis je l'ai regardée, et puis je lui ai dit, « Mais je crois que même si je connaissais vos défauts et que vous connaîtriez les miens, on s'aimerait quand même. » Se dire du bien, pour moi, c'est très important, parce que c'est peut-être par là qu'on peut le plus toucher nos contemporains, en étant bienveillant, en étant dans cette attitude. Et si nous acceptions de déposer nos lunettes noires, qui sont très à la mode peut-être, pour entrer justement dans ce que ce psaume, dans le monde que ce psaume nous ouvre, c'est-à-dire dire du bien, être dans cette bienveillance. En choisissant de le faire, c'est un exercice. De la même manière que je m'exerce pour apprendre une langue, jouer du piano ou même faire de l'exercice pour les muscles, de la même manière, je peux faire l'exercice de la bienveillance. C'est quelque chose qui s'exerce et plus on va le faire, plus ça vient. Et c'est vrai que depuis quelques années, ce thème me tient particulièrement à cœur, personnellement déjà. Et si j'avais un seul message, un dernier message à donner, ce serait celui-ci, celui de la bienveillance. Et que depuis quelques années, où je m'exerce dans la grâce de Dieu, parce que moi j'ai reçu le regard de bienveillance, à redonner cette bienveillance à ceux qui m'entourent, eh bien je m'aperçois combien cela est transformateur, mais véritablement transformateur. Dans le monde du travail, par exemple, quand on me demande « est-ce que tu témoignes du Seigneur ?», je ne sais pas quoi répondre. Mais en tout cas, une chose je fais, je veux être connue pour ma bienveillance. C'est ma prière de tous les matins. Seigneur, que je sois connue, non pas seulement pour mes compétences et tout ce qu'on doit faire, bien sûr, c'est très important, mais que je sois connue pour ma bienveillance. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, il y a des fruits qui sont là, où les gens viennent me la refléter. Au début, ils sont un petit peu étonnés. On est toujours un peu méfiant hein, quand quelqu'un est gentil ou qu'est-ce qu'il veut. Et là, tout d'un coup, on vient me le refléter. Alors, ça me gênerait de vous redire ce qu'on me dit, mais quelque chose se passe et il y a une transformation. Et vous savez, c'est ça qui change le monde. C'est cette bénédiction-là qui change le monde. Alors, si j'ai un seul appel à faire à mes frères, à mes sœurs, à mes amis, c'est celui-ci. Exerçons-nous à la bienveillance. Exerçons-nous à cette bénédiction. Comme nous la recevons, rendons-la en disant du bien. Et j'aimerais préciser, la bienveillance, ce n'est pas la complaisance. Même Dieu n'est pas complaisant, puisque ce psaume va dire... Ce n'est pas qu'il dit, par rapport au péché, « Ah, oh, c'est comme si ça n'a pas existé, oh, c'est pas rien, pas du tout. » Il n'est pas complaisant, mais il pardonne. Et la bienveillance, c'est tout à fait quelque chose de lucide. Je suis lucide sur mes faiblesses, je suis lucide sur mes forces, je suis lucide de qui je suis, et je suis lucide sur l'autre. Mais je choisis de voir l'être qu'il est dans son fond, avec ce regard de Dieu sur lui, sur elle. C'est ça, la bienveillance. Ce n'est pas tout le monde, il est joli, tout le monde, il est beau. Ce n'est pas du tout ça. Parce que tout vient de la bonté de Dieu et tout retourne à sa bonté. En bénissant, nous recevons la bénédiction. C'est ce qu'on appelle, dans le Nouveau Testament en tout cas, le royaume des cieux est ici. C'est ce que Jésus disait. Mais voyez, aujourd'hui, vous êtes étonnés de mes miracles, vous êtes étonnés de mes paroles, des guérisons, des délivrances. C'est parce que le royaume de Dieu est ici. Il exerçait la bénédiction. Il exerçait sa bienveillance. Le royaume des cieux est ici et maintenant. C'est ça que je peux semer. Et c'est particulièrement fort lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui est peut-être un adversaire. On ne va peut-être pas aller jusqu'à l'ennemi, je ne sais pas, peut-être que vous en avez, peut-être que j'en ai, que je ne le connais pas. Mais dans Proverbe 25-21, il y a ce verset qui m'a toujours un petit peu interpellée, qui dit « Si ton ennemi ou ton adversaire hein, a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. parce qu'en faisant ainsi, tu réunis des charbons ardents sur sa tête. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que si tu lui rends quelque chose de bien contre quelque chose de mal qu'il t'a fait, ça va le mettre mal à l'aise, mais très mal à l'aise. Vous savez, quand on est sur les charbons, hein, on est comme ça. C'est tellement chaud qu'on ne peut pas résister. Quand on dit « je suis sur les charbons ardents », c'est exactement ça. Vous voyez ? Eh bien, si on va faire quelque chose en retour dans la bienveillance alors qu'on vient de recevoir peut-être quelque chose qui ne l'est pas, eh bien, la personne va avoir tellement de soucis à se faire parce qu'elle dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Mais comment ?» Et il se passe quelque chose. Je l'ai expérimenté et je vous assure, c'est quelque chose qui est vrai. Je vous encourage à le faire. En retour, dans ce psaume, on le voit bien, que recevons-nous dans tout ça ? Eh bien, Dieu dit, au travers du psalmiste, « Eh bien, toi, tu es couronné de tendresse et de compassion de Dieu. » Donc, encore plus de cette compassion, encore plus de cette tendresse pour pouvoir ensuite la déverser. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Ça, c'est vrai. Si je n'ai pas, je ne peux pas donner. Il ne m'est pas demandé de donner quelque chose que je n'ai pas. Si je n'ai pas d'argent à donner, Dieu ne me demandera pas d'en donner. On peut être tout à fait rassuré là-dessus. Nous pouvons donner ce que nous avons. Et si nous recevons, nous pouvons aussi donner en retour. Ce qui me touche aussi dans ce psaume, tout particulièrement, c'est tous les mots que le psalmiste cherche pour, comme s'il ne trouve pas les mots pour décrire ce Dieu. Il va utiliser bonté, bienveillance, comme pour nous convaincre de dire « Mais regardez comme est Dieu. Le Seigneur, il fait justice. Le Seigneur, il défend ta cause. Le Seigneur est débordant d'amour. Il n'est pas là à la recherche de ta faute. Il ne te fait pas un procès. Il n'est pas en train de te mettre en faute. » Tous ces mots qu'il essaye de mettre comme pour nous dire à nous, les lecteurs d'aujourd'hui, les auditeurs d'aujourd'hui, entendez, regardez, voyez, goûtez comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur est plein de tendresse, et répondez cette bonne nouvelle. Et il n'a pas de mots pour le dire. On pourrait dire en résumé, il le dit lui-même dans ce psaume, comme ce petit garçon de 5-6 ans à qui on a demandé « Mais c'est qui Dieu pour toi ?» Et il va répondre « Mais Dieu, c'est un papa qui aime comme une maman. » Et c'est pour ça que le psalmiste va utiliser ce mot « père » ou « parent ». En fait, c'est « père et mère » en réalité. « Père et mère ». D'ailleurs, cette traduction est la traduction de Thérèse Glardon, qui l'a traduit de l'hébreu, qui était professeur d'hébreu à l'Université de Lausanne. C'est pour ça que j'ai lu cette version. Et puis ensuite, vient cette deuxième partie du psaume à partir du verset 11. Et je vais quand même vous dire quel psaume c'est le psaume 103. Cette deuxième partie de ce beau poème où on voit que l'auteur prend de la hauteur. L'auteur, donc celui qui écrit, prend de la hauteur, puisqu'il va aller jusqu'aux cieux. Comme les cieux surplombent la terre, il fait une verticale, comme les cieux surplombent la terre, ta fidèle tendresse abrite ceux qui le respectent. Ça veut dire que le ciel, il abrite toute la terre. Il n'y a pas un bout de terre sans ciel, où on ne voit pas le ciel quand même. Eh bien, comme ce ciel qui est dans toute la terre, ainsi est la tendresse de Dieu. Et moi, j'aime bien cette image parce qu'elle me ramène à mon enfance. Lorsque je voulais dire à quelqu'un que je l'aimais beaucoup, je lui disais toujours « je t'aime comme le ciel » parce que je ne trouvais pas de mots comment lui dire. Et alors, je t'aime comme le ciel, parce que le ciel, il est partout. Et comme ce ciel, il surplombe cette terre, ainsi est ta fidèle tendresse. Et ensuite, il va tirer une horizontale. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi il éloigne tes fautes. C'est-à-dire, est-ce que l'Est peut rattraper l'Ouest ? On peut courir, hein, on peut faire l'avion, on peut prendre une fusée, on ne rattrapera jamais. Autant tes fautes sont éloignées. Alors à quoi bon se culpabiliser du matin au soir ? S'il te pardonne, s'il me pardonne, s'il nous pardonne, À quoi bon ? Entrons-nous ce pardon ? C'est peut-être pardonnons-nous aussi. C'est peut-être ça. Et vous voyez cette finesse, ce clin d'œil de Dieu. Une verticale et une horizontale, la croix. 1000 ans avant, la croix qui apparaît. De la tendresse de Dieu pour la terre, pour les hommes, pour tous les hommes, quels qu'ils soient, hommes, femmes, enfants, de tous les âges, de tous les temps. Et ensuite, de l'Orient, de l'Est, jusqu'à l'Ouest, pour embrasser la terre entière et dire, voilà, cette croix. L'auteur ne savait pas, mais il a cette révélation prophétique 1000 ans avant. Et c'est là le clin de Dieu dans ce psaume. Comme on voit, comme Dieu prépare déjà le chemin. Et puis il y a encore cette parole dans cette deuxième partie, où après avoir regardé le ciel, l'auteur revient sur terre, se pose sur terre de nouveau, et dit, oui, nous, nous sommes des humains. Mais le Seigneur le sait qu'on est des humains, c'est lui qui nous a fait. Il n'attend pas des surhommes et des surfemmes. Non, il attend des humains. Il ne va jamais nous guérir de notre humanité, hein, et de notre vulnérabilité, jamais. Nous sommes des humains, tu le sais. Aujourd'hui on est là, demain on ne l'est plus. Comme la fleur des champs, ça passe. Et néanmoins, tu choisis de venir pour nous. Tu choisis d'étendre ta tendresse, ta bonté, ta bienveillance, ta bénédiction, ta miséricorde. Le psaume 8 dira, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. L'auteur, il s'étonne, il dit, mais pourquoi tu as tellement de tendresse pour les hommes et les humains pauvres que nous sommes? Mais parce que Dieu a voulu, c'est le projet de Dieu, c'est le cœur de Dieu, on vient du cœur de Dieu, on retourne au cœur de Dieu. C'est de là, si tu ne sais pas encore ton identité, c'est là qu'il faut la chercher. À partir du cœur de Dieu, elle est là notre identité. Je viens de l'amour de Dieu. Quand bien même mes parents ne m'auraient pas désiré, ce n'est pas le cas, mais quand bien même mes parents ne m'auraient pas désiré, malheureusement ça existe. Mais je viens du projet de Dieu, je viens du cœur de Dieu. C'est de là que je viens. Il a voulu que je sois là, il a voulu que tu sois là, que chacun ici soit là, que tout le monde soit là. C'est son projet et c'est vers lui qu'on retourne. Ce psaume est composé de 22 versets et vous les avez tous écoutés. Je ne sais pas ce que cela a suscité dans vos cœurs juste à la lecture, mais si quelque chose, un verset en particulier, un mot vous a touché, gardez-le bien précieusement pour vos méditations personnelles. Gardez-le. C'est précieux. C'est un trésor. Et ensuite, vous le reprenez dans la prière, dans vos moments, à vous. Si ce psaume est composé de 22 versets, ce n'est pas un hasard, c'est tout l'alphabet hébreu. Et là aussi, il y a une grande image que la langue sémitique nous donne, ou la culture, je dirais plus, sémitique nous donne, c'est que c'est un tout, c'est une complétude, une plénitude, c'est complet. Parce que oui, Dieu est l'alpha et Dieu est l'oméga. Dieu est le commencement de tout, de toute vie. Dieu est la suite de toute vie. Dieu est l'aboutissement de tout et de tous. C'est ce que ce psaume veut nous faire savoir. Il est en tout et en tous, nous dira plus tard l'apôtre Paul dans Éphésiens. Et cela pourrait nous faire peur. Ce grand Dieu incroyable. Et pourtant non. Le psalmiste continue en disant, c'est vrai que le Seigneur a dressé son trône dans les cieux. Il est le tout, en tous, il sait tout. Il règne souverainement sur toute chose. Comme pour nous dire, peut-être que ce monde va mal à nos yeux. Peut-être qu'on pense qu'il y a un chaos. Peut-être on pense que les choses pourraient être mieux gérées. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, lui, il règne. Ce n'est pas un chaos pour lui. Il n'y a pas de désordre pour lui. Il sait très bien ce qui se passe. Et nous pouvons être tout à fait rassurés qu'il est en contrôle de ce monde. Comment? C'est son mystère. Acceptons-le, mais entrons dans son projet, à notre niveau. En revenant humblement à lui-même, le poète ou le psalmiste va de nouveau revenir sur terre humblement à notre aujourd'hui, à notre quotidien, au battement de nos cœurs, et il va terminer ce psaume de la même manière, avec la même phrase qu'il a commencée, en s'adressant à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel. » Comme pour dire, « Oui, il y a toute cette grandeur de Dieu. Oui, il y a toute cette magnificence de Dieu, cette tendresse. Mais moi, j'en ai part. Moi aussi, j'ai ma part. Moi aussi, je peux jouer ma partition dans ce monde, aussi petit que je sois. » Aussi minuscule est ma partition, elle est importante. Et personne d'autre que moi, que toi, ne peut l'accomplir. Parce que Dieu avait formé ce projet. Depuis le début, tu étais, j'étais le projet de Dieu. Et c'est pourquoi on peut à nouveau se rassembler, rassembler notre troupeau intérieur et se mettre tout simplement dans le « Mon âme bénit l'Éternel. » Amen.